Promenade africaine. Dans une atmosphère de préhistoire, je retrouve le cœur de mon Afrique. Cerro Nera, février, 12h. Nous voici à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie. Il n'y a personne, parce que personne n'entre en Tanzanie par l'ouest, en venant comme nous du Zaïre, c'est-à-dire de l'Atlantique. L'entrée normale des touristes en Tanzanie se fait par l'Est, par l'océan Indien, autrement dit par Dar es Salaam. Je précise cela pour souligner le caractère antitouristique et imprudent de mon voyage, qui du point de vue routier a été peut-être le pire parmi ceux que j'ai fait jusqu'ici en Afrique. Il n'y a donc personne. Le soleil tape sur l'édifice désert de la douane, sur le pont qui enjambe la cascade fracassante, couleur cacao, du fleuve Kagera, sur les collines pavoisées des feuillages ondoyant des bananeraies. Nous faisons le tour du bâtiment de la douane, nous trouvons le douanier confortablement assis, le col ouvert à l'ombre, devant un plat fumant de pommes de terre. Il nous dit, sans cesser de mastiquer, que le passage de la frontière est suspendu durant la sieste. Nous formulons des reproches à l'africaine, c'est-à-dire tout à la fois suppliant et autoritaire. Le douanier finit par consentir à nous laisser traverser 10 minutes plus tard, juste le temps de terminer ses pommes de terre. 13h, nous roulons à toute vitesse, 20 à l'heure, d'un virage à l'autre sur la piste, entre les collines de Tanzanie. Très naturellement, regardant le ciel immense dans lequel montent de grands nuages orageux, je me rappelle le célèbre poème en prose de Baudelaire. Vous vous en souvenez ? Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas les merveilleux nuages. Oui, pour voir les merveilleux nuages, il faut venir en Afrique, en cette saison qu'on appelle des petites pluies. Des nuages semblables à des continents, aux contours capricieux, blancs, gonflés et ourlés de franges obscures, voyagent dans le ciel azuré. Ils se sont déjà en partie déchargés de l'eau qu'ils portaient dans leurs flancs, peut-être hier, peut-être ce matin même. La verdure des collines le révèle, un vert brillant et propre, comme au premier jour de la création. 14, 15, 16 heures, nous ne cessons de tourner et de retourner entre les collines en partie plantées de bananeraies et en partie encore recouverte par l'ancienne forêt fluviale. Pistes rouges, arbres qui tendent au-dessus de la route, leurs branches chargées de lianes, pareilles à d'immenses chevelures défaites de femmes. Aucune habitation, aucun passant, aucun animal. Je laisse un coup de nu plié sortir par la fenêtre de la Land Rover. Ce soir, il sera entièrement brûlé par le soleil, demain j'aurai des plaies. 17h, 18h, farouche, ou plutôt triple embranchement. Une piste va à Kibondo, une autre à Roulinges. Le troisième est une route en construction barrée et sans panneaux. Nous prenons celle qui mène à Roulinges, persuadés que c'est un raccourci, et naturellement nous nous trompons. C'est le chemin le plus long, et même le pire, caillouteux et boueux. Ici aussi, il a dû pleuvoir hier ou ce matin. 17, 18, 19 heures. La nuit soudaine paraît monter plutôt que tomber, comme d'en bas, comme si les ténèbres jaillissaient de l'épais sous-bois, sans parvenir au ciel clair, grouillant d'étoiles furieusement scintillantes. Nous cherchons maintenant les lumières de Biara Moulo, qui doit être une bourgade insignifiante, mais c'est le seul centre urbain dans un rayon de 1000 kilomètres. Nous voyons dans le noir certaines lueurs qui donnent lieu à une discussion. Est-ce que ce sont des lucioles ? Il reste encore des lucioles en Afrique, elles n'ont pas disparu comme dans l'Italie de Pasolini. Ou bien des lampes ? Tout à coup, les lumières en question, qu'il s'agisse de lucioles ou de lampes, s'éteignent entièrement. Nous roulons à nouveau dans le noir. 19h, 20h. Nous sommes à Biara Moulo, comme nous en informe un panneau de signalisation fixé sur le tronc d'un baobab. Le problème maintenant est de trouver une mission où dormir. Il ne faut même pas songer à trouver un hôtel. Les missions, à en juger par notre solide expérience, sont de deux catégories. Celles qui hébergent les voyageurs et celles qui les refusent. Ces dernières sont celles qui sont tenues par des missionnaires africains et elles refusent les voyageurs blancs, un peu par méfiance et surtout à cause de leur extrême pauvreté. Les missions dirigées par des missionnaires blancs sont toujours accueillantes, certes selon différents modes d'hospitalité, en fonction de l'humeur et des moyens de ceux qui s'en occupent. 20-21h. Biara Moulo a aussi des hôtels, mais il s'agit d'auberges de Far West pour camionneurs qui, en l'occurrence, ne refuseraient pas de dormir dans la même chambre, sinon dans le même lit que d'autres voyageurs. Nous entrons dans l'un de ces hôtels pour obtenir des renseignements sur la mission. Il porte le nom pompeux d'hôtel Excelsior. En réalité, c'est une petite baraque à un seul étage, avec des grilles métalliques en guise de vitres aux fenêtres, ce qui lui donne une allure de prison. Nous pénétrons dans un petit vestibule. Il y a un comptoir de réception de la taille d'un établi de cordonnier. Dans la faible lumière, nous entrevoyons un énorme panneau avec le menu du jour, essentiellement du ragoût de buffle avec du pili-pili. Et alentour, les habituelles grilles métalliques qui remplacent aux portes le verre trop cher. Poliment, le tenier nous apprend qu'il y a bien 3 missions à Biharamulo. 21-22 heures, nous fions à des indications typiquement africaines, c'est-à-dire erronées, nous tournons dans l'obscurité à travers Biharamulo pendant moins 1 heure. Finalement, nous nous engageons dans une petite avenue, nous arrivons sur une place entre des édifices d'un style de toute évidence missionnaire, à savoir pauvre et sommaire. Hélas, le missionnaire est africain. Dans un anglais correct, il nous explique qu'il ne peut pas nous héberger parce qu'il reçoit l'évêque en visite. Le voici, l'évêque. Boucle blanche sur son vaste front noir, habit gris lilas, croix d'améthyste sur la poitrine. Le missionnaire nous dit que nous trouverons à nous loger dans une autre mission plus spacieuse. Nous devons tourner à gauche et au bout d'un kilomètre, nous trouverons un clocher. Nous ne pouvons pas nous tromper. 22-23 heures. Il n'y a pas un mot de vrai, aucun clocher à l'horizon, ni à 1 kilomètre, ni à 10 kilomètres. L'inévitable discussion a lieu. Le missionnaire africain nous a-t-il induit en erreur par pure malveillance ou sans le vouloir par inexactitude? Bref, était-ce un beau salaud ou simplement quelqu'un de confus? La discussion ne prend fin que sur la place de la mission enfin découverte après 1 heure de recherche. Voici comme toujours les chiens qui aboient, comme toujours le gardien armé d'un fusil napoléonien. Tout à coup se présente un missionnaire à l'aspect anglo-saxon, autrement dit très grand, très maigre, avec une tête étroite et un profil d'oiseau de proie. Il est en effet anglais, il vient même de Londres. Sans palabre inutile, il nous annonce qu'il peut nous héberger pour la nuit, mais pas nous offrir de dîner, il est trop tard, les missionnaires ont déjà pris leur repas. Nous mangeons dans la chambre les conserves de thon et de sardines de nos provisions, avec des bananes et des papayes. Ma chambre est petite et nue, j'ai un lit de camp, muni cependant d'une moustiquaire. Je me couche, je me mets à lire avec une attention vétilleuse, un livre sur le socialisme de Nyerere, le président de Tanzanie. Hélas, soudain la lumière disparaît, sans doute pour économiser l'énergie. J'essaie d'allumer la lampe à pétrole. Dans le noir, je trouve la boîte d'allumettes, mais elle est vide. Je m'endors. 7 heures. Le lit a beau être pourvu d'une moustiquaire, j'étais sauvagement piquée pendant mon sommeil. Comment les moustiques ont-ils réussi à traverser la moustiquaire? De mauvaise humeur, je vais dans la salle à manger où nous prenons le petit déjeuner avec les missionnaires, porridge, saucisses, œufs au bacon, viande en conserve, beurre salé, thé, café. Il n'y a que 2 blancs, la grande asperge d'hier soir, et un jeune homme, lui aussi anglais, à l'aspect intellectuel de professeur de collège, qui en effet enseigne la littérature à l'école de la mission. Les 2 blancs ne parlent presque pas. En revanche, plus expansifs, les missionnaires africains bavardent. Ils veulent tout savoir sur le pape. 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures. Nous roulons d'une colline à l'autre sous un ciel dans lequel ne se trouvent plus les merveilleux nuages de Baudelaire, mais une seule nuée semblable à une bâche couleur fumée, si basse au-dessus de nos têtes que j'ai l'impression que je pourrais la toucher en levant le bras. La piste est très mauvaise, avec des bosses et des trous qu'on ne voit pas et qui de temps à autre nous font impitoyablement tressauter. Et puis voici, enfin pas très loin de Mwanza, la plaine. C'est une plaine à l'allure préhistorique, troglodytique. Dans la steppe jaune, ça et là se dressent d'énormes monuments créés par l'érosion il y a quelques millions d'années, quand le lac Victoria s'étendait jusqu'ici. Ce sont des pierres colossales, lisses et ovales, entassées les unes sur les autres en vertu d'équilibres étranges et dirait-on intentionnels. Dans la lumière hagarde de l'orage imminent, ils nous conduisent à imaginer de menaçantes processions de dinosaures, d'horribles bagarres entre de gigantesques herbivores et des carnivores antidiluviens. Les monuments naturels se succèdent dans la plaine sur 50 kilomètres, avec toujours la même répétitivité obsessionnelle que l'on connaît en Afrique. Puis soudain, voici le lac, ou plutôt la mer, Victoria. Bientôt, nous arrivons au ferry. Si nous le ratons, il nous faudra attendre une nuit dans la voiture ou faire un détour de 1000 kilomètres. 13 heures. Il pleut à verse, des cordes, dans une fraîcheur inopinée et stupéfiante, après une telle touffeur. Je suis tellement soulagée que je ne m'aperçois pas de l'aspect repoussant dans l'embarcadère du ferry. Des baraques avec des bars minuscules, sordides, un guichet sale et délabré, un petit mol à demi détruit par les tempêtes. Le ciel sombre et agité déverse sur le lac une pluie qu'un rayon de soleil perçant est venu d'ondes ses eaux colorées de jaune. Sous cette pluie, le lac bouillonne de vagues plombées. Tout à coup, il cesse de pleuvoir, un soleil fastueux et brûlant éclate dans le ciel, les flaques de boue fument et sèchent rapidement, tous les personnages habituels des haltes en Afrique réapparaissent, enfants qui tendent la main pour on ne sait quoi, femmes avec un panier sur la tête et un nourrisson sur le bras, qui sourient d'on ne sait quoi, hommes qui regardent fixement sans dire un mot avec on ne sait quelle idée à l'esprit. Soudain, voici le ferry. Nous montons, non sans difficulté, les voitures se disputent la place, les chauffeurs se querellent pour passer les premiers. Finalement, le bateau part. Je me juge sur le pont et je regarde le lac. Il est vert bouteille. Quelques rochers d'une blancheur éblouissante, irréelle, émergent. Des oiseaux blancs volent, perdus sous les nuages noirs. Je me dis alors que c'est pour voir, ou plutôt pour découvrir, cette étendue d'olives vides, qu'il y a un siècle et demi, sont morts d'épuisement et de maladie tant d'explorateurs et de missionnaires, à commencer par le mythique Livingstone. J'éprouve un sentiment, comment dire, de déception et de frustration. Le mystère de l'Afrique n'était donc qu'une question de voie de communication et de véhicule à traction mécanique. Par conséquent, d'autres mystères pourraient se révéler être demain, tel celui de l'Afrique, une pure question de modernisation des moyens de transport. Ainsi, le mystère du cosmos dans la marche des astronautes sur la Lune, c'est-à-dire sur un insignifiant caillou stérile, nous a peut-être annoncé la fondamentale inexistence. 18h, nous arrivons à Mwanza, que j'ai déjà visité il y a 20 ans. Elle est devenue beaucoup plus grande, mais a conservé son caractère originel de carrefour commercial, avec les inévitables magasins de style Far West, où l'on vend un peu de tout, et qui pour la plupart appartiennent à des Indiens et à des Pakistanais. Nous trouvons avec peine des chambres dans un hôtel très récent et déjà délabré, qui manifestement n'a rien de touristique, et qui est plutôt fréquenté par des hommes d'affaires africains. Nous nous couchons tôt, il pleuvra toute la nuit. 7, 8, 9 heures. 2 heures de vitesse grisante sur un tronçon trempeur de route macadamisé nous donne l'illusion d'être en mesure d'atteindre l'entrée du parc de Serengeti au début de l'après-midi. J'ai dit trompeur à bon escient. Tout à coup, le tronçon s'engouffre dans une étroite vallée entre les montagnes et voici qu'au bas de la côte, il se transforme en sentier muletier. J'ai le cœur qui chavire. La côte qui n'est faite que de cailloux et de trous avec de larges flaques d'eau noire et de profondes ornières creusées dans la boue par les roues des autocars ne paraît pas carrossable. C'est ce qui se vérifie, en effet, dès le premier essai. La Land Rover avance d'un mètre et recule de deux. Malgré les efforts du chauffeur pour la maintenir droite, elle tend à se mettre en travers de la piste. Les roues tournent à vide et s'emprisent sur la bourbe des nids de poules détrempées. Je me dis que nous finirons par être bloqués et au bout d'un moment, c'est ce qui se produit. Au sommet d'un col, nous tombons sur une douzaine de véhicules, camions, jeeps, voitures embourbées et immobilisées dans un embouteillage de type urbain. Nous essayons de resquiller, de passer entre deux voitures, mais nous dérapons sur la boue grasse et dense jusqu'au fond d'une ornière et nous ne bougeons plus. Je saute alors de la Land Rover et pendant que les chauffeurs s'activent avec les pelles, je me console en regardant le paysage. C'est le paysage sublime des hauts pâturages des Maasai, tribu de bergers qui vit entre la Tanzanie et le Kenya. Du bord de la route, le regard domine le long des pentes vertes jusqu'au fond de la vallée. Ça et là, des groupes de petits points noirs semblent bouger. Ce sont les troupeaux de vaches dont les Maasai tirent toute leur nourriture, c'est-à-dire le lait et le sang. Peut-être dans nos Alpes y a-t-il des pâturages aussi solitaires, éloignés et silencieux, mais ce n'est qu'ici en Afrique que la pureté et la solitude de la montagne s'allient étrangement à la lumière intense des tropiques. Dans cette contemplation, j'oublie les chauffeurs qui dégagent la boue par pelletée, les touristes qui, désolés, s'agitent autour des voitures bloquées. Au bout de plus de 2 heures, nous repartons. 22h, nous arrivons de nuit à Sererona, où se trouvent tous les motels du parc. Surprise, comme le parc ferme officiellement à 18h, tout le personnel du motel s'en est allé au village et ne reviendra pas avant demain matin. Nous dînons de nos habituelles conserves de cornet de bœuf dans nos chambres. Un gros singe de l'espèce cynocéphale entre dans ma chambre, prend dans ma main une banane que je suis en train de manger, sans violence, toutefois bien élevée, et il s'en va. Il pleut à nouveau, coups de tonnerre et éclairs, pendant toute la nuit.